Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance et sa garantie de financer les études supérieures de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Pour certains d'entre nous, quand la douleur survient, la prise d'un cachet suffit à classer l'affaire. Un médicament efficace et la douleur est un mauvais souvenir. Mais dans d'autres cas, certains patients peuvent avoir l'impression d'avoir tout essayé pour se débarrasser d'une sensation douloureuse. Pincement aigu dans le bas du dos, tempes prises en étau, pression insupportable sur le front, contractions et tensions fulgurantes du bas-ventre. Douleurs lombaires, migraines, douleurs menstruelles, une souffrance que rien ne semble apaiser, y compris des dosages de plus en plus forts à des intervalles de plus en plus réduits. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans Priorité Santé, cette douleur au long cours, douleur chronique qui jalonne le quotidien de certains, sans répit, en les privant de sérénité, du sommeil réparateur par exemple, et à terme, qui pèse lourdement sur le moral. Chercher le soulagement, chercher une issue, alors à qui s'adresser? L'explication, le diagnostic était-il le bon? Existe-t-il des solutions pour souffrir moins, faute de ne pas réussir à arrêter de souffrir tout simplement? Existe-t-il des conseils, des méthodes pour s'extraire de cette spirale de la douleur? Des questions, des témoignages sur la page Facebook de l'émission et à notre numéro, le 33 84 22 75 75. Supporter, subir, souffrir, pourquoi certaines douleurs sont-elles rebelles au traitement et quels sont les mécanismes qui entrent en jeu dans la douleur? Autant de questions que nous allons aborder avec vous. Docteur Carole Sereni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue, co-responsable de la consultation multidisciplinaire de la douleur chronique à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Et vous avez signé aux éditions du CERF le livre « Les mots de la migraine ». Elle est aussi neurologue et exerce au Burkina Faso. Tout à l'heure, nous donnerons la parole au docteur Julie Kielem, neurologue épileptologue au CHU Yelgado Ouédraogo d'Ouagadougou. Et en fin d'émission, on va évoquer la recherche dans le cadre de la lutte contre la drépanocytose. Parmi les pistes prometteuses, double thérapie génique, dont on parlera avec le professeur Marina Cavazzana, hématologue, chef du service des thérapies innovantes à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris.
Priorité santé sur RFI.
Autant le dire, un docteur Sereni, on va très souvent voir son médecin consulter parce qu'on a mal quelque part. Mais est-ce qu'on peut évaluer la proportion de ces douleurs résistantes, hein, celles qui nous intéressent aujourd'hui dans l'émission, ces sensations pénibles qui persistent malgré une ou plusieurs prises en charge, malgré une ordonnance d'antidouleur?
Alors, c'est sûr que la douleur est un des motifs les plus fréquents de consultation médicale. Évaluer exactement le nombre de gens qui vont passer à la chronicité, c'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas des statistiques. Surtout, les douleurs chroniques sont très différentes les unes des autres. C'est pour ça que c'est difficile d'évaluer le problème de la douleur chronique dans son ensemble. Par exemple, dans la migraine, il y a la plupart des migraineux ont des migraines de temps en temps, et puis il y en a qui vont avoir la migraine chronique, c'est-à-dire tous les jours. Ça, c'est bien, bien pire, c'est infernal, et ça, on sait que ça représente, mettons, un peu moins de 10% des migraineux.
Alors, on oppose chronique à aiguë. Pour les auditeurs, pour bien resituer les choses, une douleur aiguë, c'est par exemple quand on se casse la jambe, c'est la douleur très vive qui vient à ce moment-là, ou quand on a une rage de dents?
C'est ça, c'est la douleur aiguë, c'est quelque chose. Alors la douleur aiguë, c'est la bonne douleur, si on peut dire, c'est-à-dire c'est adapté, c'est une réponse adaptée. Le corps signale qu'il y a un problème majeur, comme par exemple on vient de se casser la jambe, c'est un vrai gros problème. Donc il y a un système dans le cerveau qui dit oh là là, attention, il s'est passé quelque chose de terrible. Et ça, c'est la douleur aiguë qui nous dit ça va pas du tout. Et c'est donc quelque chose qui est en quelque sorte normal, hein, quand on a eu une grosse douleur. Alors après, il y a des maladies douloureuses qui n'ont pas beaucoup de sens, comme la migraine. Et ça, on ne sait pas très bien pourquoi ça vient. Mais en tout cas, la douleur aiguë, c'est quelque chose qui ne dure pas. La douleur chronique, c'est ça s'installe. Et alors là, c'est très différent parce que, du coup, petit à petit, ça mobilise un petit peu presque toutes les ressources du cerveau. C'est-à-dire qu'on devient complètement... Le cerveau se fixe sur cette douleur. Ça envahit, en quelque sorte, complètement le champ de la pensée. On ne peut plus rien faire. Et là, c'est une vraie maladie.
On parle de douleur au singulier, mais en fait, quand on s'intéresse à la douleur, comme vous le faites tous les jours dans votre métier, on voit qu'il y a des douleurs au pluriel, avec des adjectifs peut-être un petit peu compliqués derrière. Mais qu'est-ce que ça change que l'on ait telle ou telle douleur ?
Alors, en fait, malgré tout, dans la douleur chronique, il y a une base qui est constante. C'est-à-dire que tout le monde ressent un petit peu la même chose. À la fois la sensation douloureuse elle-même, hein, et puis en même temps tout ce qui va avec, c'est-à-dire le fait qu'on est malheureux, parce que c'est autant, ça va tout seul, c'est automatique. Le cerveau dit la douleur, ça va pas, donc il nous rend malheureux. Le fait qu'on est fatigué, qu'on peut pas dormir, que petit à petit on n'a plus rien envie de faire, tout ça, ça fait partie du syndrome de douleur chronique. Alors après, évidemment, les choses sont très différentes selon qu'on a une douleur, par exemple, une migraine chronique, on a mal à la tête tout le temps, ou qu'on a des douleurs du dos qui sont plus mécaniques. C'est-à-dire que les gens qui ont mal dans le dos, ils ont mal tout le temps, mais ils ont surtout mal quand ils bougent. Donc les douleurs des règles, qui sont très, très répétitives, sont pas vraiment des douleurs chroniques dans la mesure où ça dure pas tout le temps, mais c'est vrai que ça y ressemble parce que ça revient tout le temps. C'est aussi très différent. On ne les ressent pas de la même manière, mais dans tous les cas, il y a cette même symptomatologie compliquée qui est que, en plus de la douleur, on a un handicap petit à petit qui se crée.
Avec donc l'impact aussi des émotions, on le comprend bien. Docteur Sérigny, il y a des expressions dans le vocabulaire de tous les jours. On dit que certaines personnes sont douillettes, à l'inverse d'autres plutôt dures au mal. Est-ce qu'il y a des personnes plus réceptives ? Et est-ce qu'à partir justement du profil de ces personnes qui, à l'inverse, endurent moins la douleur, on peut comprendre comment fonctionnent ces mécanismes ?
Ça serait trop beau. Il y a des gens qui ne ressentent pas du tout la douleur, hein, ils ont une maladie qui les empêche de ressentir la douleur. Et en fait, ça les rend pas tellement moins douillés,
oui,
si on peut dire.
Et c'est dangereux.
Ils ont peur. Oui, c'est dangereux. Et en plus, ça les rend pas tellement heureux, en fait. Il faut peut-être beaucoup relativiser ça. Il y a peut-être des gens qui sont plus sensibles à la douleur que d'autres, mais surtout, on peut tous être sensibles à la douleur. On est tous vulnérables. Et ça, il faut dire que ça n'arrive pas qu'aux autres.
C'est pas un signe de faiblesse en tout cas, on l'a bien compris, docteur Sérigny. On va prendre tout de suite une première question d'auditeur. Et pour cela, nous partons au Ghana.
RFI à Accra, 89.5 FM.
Pour vous retrouver, Gédéon, bonjour.
Bonjour.
Alors Gédéon, vous avez 32 ans. Expliquez-nous où sont localisées vos douleurs.
Je sens ma douleur au niveau du dos, et entre le bras et l'épaule. Parfois, je le sens aussi dans le bras, au niveau de l'avant-bras.
Et ça dure depuis combien de temps, Gédéon ?
Depuis plus de 5 à 6 mois.
Et vous avez consulté après ces douleurs ?
Oui, j'étais à l'hôpital. On a fait des tests et des radios. Et on m'a dit que c'est de la discopathie dégénérative.
Alors, je me tourne vers le docteur Carole Sérigny. Discopathie dégénérative, c'est quelque chose qui va donc toucher la zone de la colonne vertébrale.
Oui, alors c'est les disques, se situent entre les vertèbres, c'est des choses un peu molles qui amortissent le mouvement, qui permettent à notre colonne vertébrale de bouger. Il y en a un entre chaque vertèbre, hein, c'est comme un petit pneu en quelque sorte, hein, entre les os. Donc c'est pour assouplir les choses. Alors c'est vrai que les disques vertébraux, ça peut s'abîmer et du coup ça peut faire saillie. Et ça peut du coup comprimer une racine nerveuse, parce qu'en fait c'est ça qui fait mal plus que le disque lui-même, c'est si on comprime une racine nerveuse, ça peut être une névralgie cervico-brachiale.
Alors, le médecin pose ce diagnostic de discopathie dégénérative sur la colonne vertébrale, et il vous propose, Gédéon, quelle prise en charge ?
Oui, je fais des massages, on me fait faire des massages de de 3 séances par semaine.
Oui.
Et puis une thérapie. On m'a aussi demandé d'acheter un lit spécial. Je voudrais dire un matelas spécial. Je n'ai pas encore acheté parce que c'est un peu cher.
Je comprends bien, oui. Et on vous a donné des conseils en termes de posture, savoir comment vous positionner pour avoir moins de douleur?
Oui, le docteur m'avait expliqué que c'est la posture qui souvent cause le problème. Donc, on m'a demandé de chaque fois contrôler la façon dont je m'assois et la façon dont je m'allonge dans le lit.
Est-ce que vous avez l'impression que toutes ces douleurs qui continuent depuis 6 mois, ça pèse sur votre morale, Gédéon?
Oui, c'est la raison pour laquelle j'appelle pour demander des conseils, comment arriver à supporter cette douleur, parce que parfois ça me dépasse, il y a de l'angoisse. La nuit, c'est difficile de dormir, donc ça me dépasse, comme je l'ai déjà expliqué.
Ouais. C'est comme si ça vous épuisait au niveau de vos émotions, vous n'en pouvez plus.
Oui, c'est exactement.
Et vous prenez des médicaments antidouleurs dans ces moments-là? Vous allez prendre des cachets? Qu'est-ce qui se passe?
Oui, on m'a donné des médicaments antidouleurs que je prends, mais parfois, même avec les médicaments, ça ne change pas grand-chose. La douleur est toujours intense, mais ça va de soi et ça revient.
Et vous avez l'impression, par rapport à ce que vous a dit le médecin, que pour l'instant, pour vous, il n'y a pas de solution?
Oui, c'est ce que le médecin a expliqué, qu'il n'y a pas vraiment de solution, que c'est par des massages que cela peut s'arranger. Et puis la douleur ne va pas totalement partir, que ça va juste diminuer.
Ça va juste diminuer, oui.
Je vais devoir vivre avec ça.
Docteur Carole Sereny, vivre avec cette douleur, comme on l'a dit à Gédéon, supporter cela au long cours, c'est très dur à entendre. Qu'est-ce qu'on peut lui dire?
C'est dur à entendre, mais alors la première chose que je peux lui dire, c'est que la discopathie dégénérative, tout le monde en a un petit peu, hein, et c'est pas forcément parce qu'il a ça qu'il va souffrir toute sa vie. Ça, c'est pas vrai, hein. Ça peut tout à fait s'arranger. Il a un syndrome de douleur chronique, et maintenant il y a des médicaments qui sont plus adaptés que d'autres pour traiter ces douleurs, qui sont pas forcément des antalgiques. Par exemple, des petites doses de certains médicaments antidépresseurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est déprimé. Mmh. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas à sa douleur, du tout. Mais ces médicaments-là peuvent parfois aider en tant que médicaments de la douleur. Hein, des médicaments, ce qu'on appelle la famille des tricycliques, à petites doses, ça peut agir sur la douleur. Certains médicaments de l'épilepsie peuvent agir sur la douleur aussi, à petites doses. Donc, tout ça doit être essayé, parce que ce sont des médicaments qui sont plus adaptés à la douleur chronique que les antalgiques.
Ça veut dire, le conseil docteur Sereny, c'est de retourner voir un neurologue pour essayer d'essayer autre chose.
Un neurologue pourrait l'aider pour ça. Et par ailleurs, il faut qu'il... C'est vrai que tout ce qui est mobilité, ça compte beaucoup. C'est-à-dire le massage, c'est bien, mais la rééducation, c'est très important. Il faut garder la mobilité de la colonne vertébrale et il faut faire de l'exercice. Il faut pas hésiter non plus à sortir, à essayer. Je sais bien que c'est très difficile quand on souffre, mais il faut essayer quand même de vivre le plus normalement possible, de ne pas se laisser trop enfermer dans sa douleur. Alors c'est très difficile, hein. C'est facile à dire quand on souffre pas. Je suis bien consciente que c'est pas si simple. Des fois, il faut se faire aider. Il y a des gens qui peuvent vous aider sur le plan psychologique. On peut apprendre des choses aussi, des techniques comme la méditation ou le yoga, ça peut vraiment aider pour des choses comme ça, justement pour exactement ce que dit le patient très bien qu'il décrit, qui est le fait que par moment on est submergé par l'angoisse et qu'on peut plus, on a l'impression qu'on s'en sortira jamais. Ça peut être quand même contrôlé. Et ces sentiments-là aggravent encore la douleur, hein. Donc il faut vraiment essayer de travailler là-dessus.
Gédéon, est-ce que vous faites de l'activité physique ou pas?
Oui, on m'a conseillé des activités physiques que je fais chaque jour.
Et pour la rééducation avec le kiné, il y a un problème pour le financer, parce qu'on sait que ça peut coûter cher, c'est pas évident de trouver l'argent.
Oui, c'est ce qui fait que parfois je manque de science parce que c'est pas aussi facile que ça.
Donc ce qu'il faut au maximum, c'est que le kiné vous montre des exercices que vous puissiez reproduire vous-même régulièrement à la maison.
Oui, je fais des exercices régulièrement à la maison. Je pense que ça peut aider.
Vous aviez consulté jusque-là un rhumatologue ou un neurologue?
C'est un neurologue de l'hôpital qui a pris soin de moi et qui m'a tout expliqué.
D'accord. Ben, on vous remercie beaucoup pour votre témoignage, Gédéon. On vous dit bon courage. Tout à l'heure, je citais l'âge de Gédéon, 30 ans à peine. Et sur cette question du vieillissement, je voulais revenir vers vous, docteur Sereni. On a Al-Husseini de Bamako qui nous a envoyé un message Facebook, une question. En quoi la vieillesse a-t-elle quelque chose à voir avec les maux de dos chroniques? Est-ce qu'il y a plus de douleurs dorsales, par exemple, quand on avance en âge?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que certaines douleurs s'améliorent plutôt avec l'âge. Par exemple, les gens qui ont des lumbagos, qui ont des douleurs des reins très importantes, ils se disent « oh là là, ça va être terrible avec l'âge ». En fait, souvent, ça s'améliore petit à petit parce que on fait moins d'efforts aussi quand on est plus âgé. Peut-être on apprend mieux aussi à gérer ses mouvements et souvent, ça va mieux. De même, la migraine, souvent, s'améliore avec l'âge. Maintenant, c'est vrai aussi qu'en revanche, il y a une tendance chez les gens plus âgés à avoir plus facilement un passage à la chronicité dans certaines formes de douleurs. Et c'est dû aussi peut-être au fait que il y a une fatigue générale, un petit manque de... Du coup, on fait moins de choses aussi. Ça, c'est très important parce que dans la douleur, il est très... Tout ce qu'on a comme activité par ailleurs, les contacts qu'on a, tout ça, ça aide. Mmh. Quelqu'un qui est âgé, qui est un peu plus isolé, qui travaille pas, est plus vulnérable au passage à la douleur chronique.
Et on a une auditrice qui endure d'intenses douleurs, c'est Léa des Comores. Là aussi, témoignage Facebook, je vais vous le lire. Léa écrit « Ne pas avoir mal, c'est ça qui est anormal pour elle. Elle a mal en permanence depuis 3 ans, elle a mal au dos. Elle est infirmière, elle travaille à l'hôpital et elle n'ose pas consulter. Alors pourquoi ? Parce qu'elle a peur qu'on lui dise d'arrêter de travailler et tout simplement, ce métier, elle en a besoin. » Pour vivre, docteur Sereni, Léa qui est, on l'entend, prisonnière de sa douleur, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
D'abord, il faut lui dire que la chose la plus importante, c'est qu'on peut lutter contre la douleur sans être obligé forcément d'abandonner son travail, même si son travail lui fait mal au dos. Alors, pour arriver à vivre avec ça, il faut qu'elle développe un programme de rééducation et d'exercice physique qui compense les efforts qu'elle fait. Par exemple, si elle peut aller nager, ça, c'est très, très bien pour compenser les douleurs qu'on fait en portant les malades.
Est-ce que ça veut dire, par exemple, que pour son travail, si elle portait à certains moments une ceinture, quelque chose comme ça pourrait l'aider aussi?
C'est ce que j'allais lui dire, c'est que pour les efforts les plus intenses, porter une ceinture peut être une grande aide. Mais il ne faut pas la porter en permanence, parce que ça, c'est catastrophique, parce que du coup, vos muscles viennent tout mous et vous avez encore plus mal. Mais pour les efforts intenses, ça peut aider. Et puis surtout, il faut compenser. Ça, c'est très important. Savoir, par exemple, un truc tout bête, c'est que si elle peut prendre de temps en temps dans sa journée de travail 5 à 10 minutes pour s'allonger sur le sol simplement et puis faire quelques exercices de détente du dos. Par exemple, vous êtes allongé sur le dos et vous repliez les genoux pour bien détendre votre dos. Si vous pensez à le faire très régulièrement, ça peut déjà être une aide importante pour le type de douleur qu'elle ressent.
Donc Léa, si vous êtes à l'écoute, allez consulter, faites-vous aider et vous trouverez certainement des solutions adaptées. On va poursuivre cet échange, prendre d'autres questions. On ira au Burkina Faso tout à l'heure, docteur Carole Sereni. Tout de suite après, Silk Sonic avec Skate.
Fine ass up in the tower. The way you move like you do. Ooh, it's like you do it for a living. Doing those
Priorité santé sur RFI, vivre avec la douleur, articulations, blessures, suite d'opérations, migraines. On est toujours en compagnie du docteur Carole Sereni, neurologue co-responsable de la consultation multidisciplinaire de la douleur chronique de l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Cette consultation douleur à l'hôpital, on frappe à votre porte pour quel type d'atteinte, quelle maladie? Jusqu'à présent, on a entendu beaucoup de douleurs de dos. Les migraines, quoi également?
Il y a également des maladies où on a mal un petit peu partout, qui sont assez mystérieuses, comme la fibromyalgie, par exemple. Dans la fibromyalgie, les gens se mettent à avoir mal presque partout dans le corps, avoir des douleurs des muscles, et sans qu'on sache très bien d'où ça vient toujours. Mais c'est vrai que le plus fréquent, c'est quand même les douleurs du dos. Et puis moi, j'ai vu particulièrement beaucoup de céphalées chroniques, parce que c'est-à-dire de douleurs de la tête, parce que j'étais spécialisée dans la migraine, donc forcément, c'est quelque chose que j'ai. Mais c'est relativement fréquent aussi comme type de douleur.
Est-ce que le facteur temps, excusez-moi, docteur, rend plus compliqué la prise en charge? Par cela, j'entends, plus on tarde à consulter, plus la douleur s'installe, plus c'est difficile de s'en débarrasser.
Oui, c'est vrai. Mais bon, faut pas non plus se décourager parce que ça peut toujours s'améliorer. Moi, j'ai eu des gens qui se sont améliorés, par exemple dans les céphalées chroniques, des gens qui avaient eu mal à la tête pendant 10 ans ou 15 ans et qui se sont améliorés une fois qu'ils ont été bien traités.
Il faut garder l'espoir. On va partir tout de suite pour le Burkina, en ligne de Ouagadougou. Un auditeur avec nous, une autre question. Avec nous, c'est Ousseini. Ousseini, bonjour.
Bonjour.
Alors vous
bonjour,
aussi.
Docteur.
Bonjour.
Ousseini, 34 ans, je dis l'âge parce que ça peut compter aussi dans l'explication. Vous avez des douleurs dorsales, des douleurs qui vous fatiguent beaucoup. On vous a dit quel nom de maladie, quel diagnostic a été posé, Ousseini?
Oui, et après les imageries médicales, on m'a dit que c'est un pincement discal. Voilà, donc je prends ça comme ça pour le moment et puis depuis 2018 que ça a commencé. Voilà. Maintenant, j'essaie de faire des consultations, on m'a orienté vers un neurologue.
Oui.
Oui. Puis ensuite, avec les kinés, que j'ai fait des séances de massage et de rééducation.
Oui.
Entre-temps, j'ai abandonné la kiné puisque ça... Apparemment, je fais, mais ça ne réduit pas les douleurs.
Est-ce que ça les réduit sur le moment, mais ça ne les réduit pas au long cours ou ça n'a aucune efficacité selon vous?
Bon, pour moi, en tout cas, la kiné qui est faite, je ne vois pas de changement. Je ne vois pas de changement pratiquement.
Même quand vous sortez de la séance, vous ne sentez pas mieux?
Même quand je sors de la séance, je ne vois pas de changement. Je ne vois vraiment pas de changement. Les produits qui m'ont prescrit aussi, quand je prends une ou deux fois, au bout de 3 jours, je prends, mais ça n'a même pas d'effet.
Est-ce que vous avez observé dans votre vie de tous les jours, Ousseini, quelque chose qui vous soulage? Je ne sais pas, une douche froide, une douche chaude, vous allonger, vous étirer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait du bien ou rien du tout?
M'allonger sur le dos uniquement, souvent, je peux m'allonger sur le dos et soulever un peu les pieds. Là, ça me soulage un peu. À part ça, il n'y a aucune position qui me soulage, aucune position, aucune autre position.
Alors, du côté de la question que vous souhaitez poser à notre invité, au docteur Sereni Ousseini, quelle question précisément sur vos douleurs dorsales?
Ok, en tout cas, je m'adapte avec la douleur et psychologiquement pour vivre avec. Mon souci est que comme la douleur, ça descend au niveau des membres inférieurs, est-ce que ça ne va pas provoquer de la paralysie? Voilà. Est-ce qu'il y a une solution aussi même pour guérir totalement cette maladie?
Vous êtes inquiet en fait, vous êtes inquiet, Ousseini, sur l'évolution. Voilà, sur la dimension, ce que ça pourrait être une maladie qui devienne de plus en plus invalidante pour vous, ces douleurs au niveau des disques. Docteur Carole Sereni, qu'est-ce que vous pouvez dire à Ousseini?
Alors ça, c'est très important parce que c'est vrai que quand on a mal, c'est vraiment tout le monde se dit ça. Oh là là, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais pouvoir continuer mes activités? Est-ce que je vais être obligée d'arrêter le sport, d'arrêter de me promener, d'arrêter tout ça? Est-ce que je vais finir dans un fauteuil roulant? Les malades me le disent tout le temps. Est-ce que je vais finir dans un fauteuil roulant? Et en général, la réponse est non. C'est-à-dire que si justement on est bien pris en charge, si on continue, alors je sais bien que la kiné c'est pas toujours bon. D'abord peut-être que ça ne passait pas bien avec le kiné et qu'il faudrait peut-être essayer quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il faut une autre forme d'exercice, peut-être des choses comme l'aquagym ou des choses. Il faut, mais en tout cas, il faut surtout pas se décourager de l'idée que on peut à nouveau être mobile et bouger. On n'est pas paralysé. C'est pas parce qu'on a une douleur du dos qu'on va être paralysé. Il faut voir que ce que je dis, les discopathies, ces douleurs des disques, les disques pincés, ce n'est pas quelque chose de qui va vous handicaper toute votre vie. Il y a des tas de gens qui ont la même chose et qui vivent relativement normalement ou complètement normalement même d'ailleurs. C'est compliqué à comprendre d'ailleurs parce que les gens se disent « Ah ben j'ai ça, j'aurai forcément mal toute ma vie ». C'est pas vrai. On garde son disque pincé, mais on va mieux. Ça, c'est important à savoir, c'est qu'il n'y a pas un parallèle strict entre les choses qu'on voit sur les radios et la douleur qu'on ressent. Ça, je sais bien que c'est pas facile à comprendre et que ça paraît même choquant de se dire « Ben oui, puisque j'ai une hernie discale, je vais avoir mal tout le temps, toute ma vie ». Non, c'est pas vrai.
C'est pas automatique. Par contre, on entend chez Ousseini un vrai besoin d'être soulagé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'il retourne voir un neurologue? Il faut d'autres médicaments? Qu'est-ce qu'il faut?
Alors, il faut, moi, j'aurais, peut-être que c'est vrai qu'il faut qu'il se repose la question d'un médicament qui marche mieux parce que manifestement rien ne marche chez lui. Oui. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est en détresse. Il faudrait le idéalement, si c'est faisable, il faudrait qu'il ait un soutien psychologique. Ouais. Ça, c'est sûr que des choses comme l'hypnose, ça pourrait l'aider, par exemple, pour arriver à vaincre cette anxiété. Il faut vraiment qu'il ait quelqu'un avec qui il puisse parler des douleurs, qui justement puisse lui dire, voilà, c'est vrai, on reconnaît la douleur, c'est un truc terrible et tout, mais il y a des choses, il faut pas paniquer, il faut pas se dire, je suis fini, c'est la fin de ma vie, j'aurai mal tout le temps. Ça, il faut vraiment que quelqu'un puisse l'aider à sortir de ces idées négatives qui ne font qu'aggraver les choses.
D'accord. Ben, en tout cas, on souhaite beaucoup de courage à Ousseini, au Burkina. On va retourner au Burkina dans quelques instants, mais on fait d'abord un détour par Niamey, par le Niger, avec Abdou Salam. Bonjour Abdou Salam.
Bonjour madame.
Vous aussi des douleurs au dos, et ça remonte à loin, ça remonte à l'enfance.
Oui, oui, ça remonte à l'enfance. C'est depuis que mon enfance que j'ai remarqué ces douleurs au dos-là.
Parce que vous accompagniez votre papa à l'époque dans des travaux assez fatigants, c'est ça?
Oui, oui, effectivement, j'ai accompagné mon papa dans les travaux un peu compliqués là, de l'agriculture.
De l'agriculture, alors que vous aviez quel âge?
J'avais 8-9 ans.
D'accord, un enfant qui travaillait au champ, effectivement, c'est quelque chose de très difficile. Maintenant, vous avez passé des radios, un examen, Abdou Salam, pour savoir ce que vous aviez?
Durant toute mon enfance, effectivement, je n'ai pas fait de consultation médicale, mais il y a de cela 3 à 2 ans maintenant que j'ai fait des consultations.
Oui.
Ben, on m'a fait passer des radios. Bon, j'ai fait les radios, j'ai amené les résultats. Le médecin me parlait d'une hernie lombaire.
Hernie lombaire. Aujourd'hui, vous faites quoi comme métier, Abdou Salam?
Je suis chauffeur.
Vous êtes chauffeur, vous conduisez toute la journée, vous êtes assis en voiture et vous avez mal quand vous travaillez?
Oui, oui, j'ai mal, surtout quand je fais un long trajet, quand je descends, vraiment, j'ai les douleurs atroces au dos.
Et vous prenez des antidouleurs, par exemple, avant de prendre le volant?
Non. C'est que, bon, depuis que j'ai fait les consultations, on m'a prescrit des antidouleurs.
Ouais.
Bon, je prends ça, mais quand j'arrête de prendre les antidouleurs, ça reprend. Bon, c'est ça qui m'a découragé. Maintenant, j'ai arrêté avec tous ces médicaments.
Oui. Ce qui vous inquiétait, c'est quoi? De devenir accro?
Voilà. Voilà pourquoi j'ai arrêté. Bon, je prends les médicaments, je n'ai pas de soulagement.
De bénéfices. Ben alors, vous faites comment pour vous soulager quand vous avez mal? Qu'est-ce que vous faites, Abdou Salam?
Hein?
Vous faites quoi pour vous soulager?
Des fois, quand je fais les longs trajets, quand j'arrive, quand j'ai les maux de dents, des fois, je ne dors pas sur le matelas, je dresse une natte au sol et je me couche à plat ventre.
Docteur Carole Sérénie, on a un autre professionnel qui a mal avec des peut-être en lien aux positions qu'il a pendant son exercice professionnel. Est-ce que c'est pas un petit peu la même chose, comme tout à l'heure on a évoqué l'idée d'une ceinture lombaire quand l'infirmière travaillait, on imagine quand il faut se pencher vers les patients, les aider à se resoulever, quand on fait les lits, tout ça, c'est très fatigant pour le dos. C'est pareil quand on conduit.
Quand on conduit, alors là, c'est sûr que c'est malheureusement pour lui, c'est sûr que la conduite, c'est super difficile quand on a mal au dos. C'est un des trucs qui c'est il y a tout ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire que quand on conduit, on est obligé de pas bouger, on reste immobile, c'est très 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 mauvais pour les douleurs. Hein. Et puis en même temps, ça fait des vibrations et tout. C'est vraiment difficile comme tout. Alors c'est vrai que les ceintures peuvent aider, mais ce que je disais, c'est qu'attention, il y a un mauvais côté aussi. Hein. C'est-à-dire que si on le prend trop, si on porte trop souvent la ceinture, on n'a plus de muscles. Et alors ça, c'est pas bon non
donc
plus.
Donc ça veut dire qu'il faut vraiment veiller à avoir une activité physique simultanément.
Voilà. Et puis alors, il a tout à fait raison de s'allonger, de se détendre. C'est important. Quand on conduit, peut-être il faut essayer de prendre des pauses de temps en temps. Je sais bien que c'est pas toujours facile. Hein, attention. Mais c'est vrai que ça change beaucoup de choses. C'est la même chose pour les gens qui écrivent longtemps, qui sont là sur leur ordinateur tout le temps penché. C'est que le simple fait de penser à s'arrêter très régulièrement, à bouger dans tous les sens, à se détendre, ça peut déjà améliorer considérablement les douleurs. Hein.
Changer de posture. On remercie beaucoup Abdou Salam. On remercie Abdou Salam pour votre appel et on part tout de suite. On retourne au Burkina Faso.
RFI à Ouagadougou, 94 FM.
Docteur Julie Kielem, bonjour.
Oui, bonjour, madame Asseki Samake. Et bonjour à docteur Carole Sérénie.
Alors, c'est Caroline Paré avec vous. Vous êtes neurologue, épileptologue au CHU Yalgado Ouédraogo. Assez-tout était bien là pour préparer le travail parce que c'est l'un des maillons essentiels de notre équipe à qui je rends hommage. Docteur Kielem, vivre avec la douleur, c'est une réalité pour beaucoup de patients, surtout lorsque l'accès aux soins est pas évident, hein, comme c'est le cas au Burkina. Est-ce que le fait d'attendre pour consulter, on l'évoquait tout à l'heure, c'est quelque chose qui favorise, selon vous, l'installation de la douleur ?
Non seulement le fait d'attendre pour consulter, ça permet que la douleur devienne plus chronique et parfois plus intense. Et souvent, ça démotive les malades qui se retournent vers des médecines alternatives.
Et est-ce qu'un certain nombre de patients que vous voyez, on leur dit quand ils vont voir le médecin, c'est dans votre tête, en fait tout va bien, la douleur c'est quelque chose un petit peu que vous inventez?
Non, pas du tout. Alors la douleur c'est une expérience qui est sensorielle, émotionnelle, qui est désagréable. Elle peut être liée à une lésion d'un organe réel ou potentiel. Dans tous les cas, c'est pas forcément dans la tête. Et quand il y a douleur, qu'elle soit sensorielle ou émotionnelle, il faut la prendre en charge parce qu'elle peut altérer la qualité de vie du patient.
Je suis bien d'accord avec vous, mais il y a quand même certains patients qui se voient dire « Écoutez, je ne peux rien pour vous. Cette douleur, elle n'a pas d'explication organique, donc moi, je ne peux pas vous aider. » Comment on fait dans ces cas-là?
Dans ces cas-là, quand on leur dit ça, c'est des patients qui malheureusement vont faire plusieurs consultations parce qu'ils ne sont pas compris.
Ouais.
Donc souvent, il faut prendre le temps de bien écouter le malade, d'être à l'écoute du patient. La douleur, c'est du vécu et vraiment d'essayer de lui apporter du réconfort.
Vous disiez tout à l'heure que certaines personnes, quand elles ont mal, elles vont par exemple voir un médecin traditionnel. Est-ce qu'il y a des douleurs qui sont associées à des explications d'ordre mystique?
Alors, chez nous, il y a certains de nos patients qui, effectivement, avouent avoir eu recours à la médecine traditionnelle, tout simplement parce que soit elles ont consulté à plusieurs reprises sans succès, elles ne voient pas leur douleur se calmer, donc elles se tournent vers la médecine traditionnelle. D'autres patients aussi, fonction de la symptomatologie, par exemple dans les douleurs neuropathiques, les sensations de fourmillement, de décharge électrique, leur semblent assez difficiles à expliquer par la médecine moderne. Donc, ils se tournent vers la médecine traditionnelle. Et certains même nous arrivent, ils nous montrent les scarifications qu'ils ont eu à subir justement au niveau de la zone qui est dite douloureuse.
Parce qu'il y a eu des rituels pour essayer d'aller contre la douleur, mais ça peut entraîner des lésions et des blessures.
Effectivement, effectivement.
Alors, on a une question d'auditrice qu'on va vous soumettre maintenant. C'est Vanessa qui est en ligne de Kinshasa. Vanessa, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Alors, des douleurs, vous, au moment des règles. Hein. C'est vrai que les auditrices témoignent souvent de cette gêne, de cette souffrance régulière. Pour vous, ça dure depuis longtemps? Depuis combien d'années?
Ouais, ça dure depuis 12 ans maintenant, parce que j'ai eu mes premières règles à l'âge de 12 ans et maintenant j'ai 24 ans, donc ça fait 12 ans que je vis avec cette douleur.
Et des fois, c'est tellement fort que vous êtes obligée de rester dans votre chambre et vous en arrivez même à vomir, c'est ça?
Bien, c'est ça. Donc il y a des moments où la plupart du temps, j'ai des vomissements, perte d'appétit, des fois de palpitations, des fois je ne peux pas bouger, de crampes qui s'en suivent, donc c'est parfois pas désagréable en fait. Souvent désagréable.
Et qu'est-ce que disent les médecins que vous avez vus?
Je consulte au moins 3 médecins. Bon, à la fin, je suis allée faire l'échographie parce qu'on devait regarder s'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mmh. On m'a prescrit des médicaments, mais après, je n'ai pas eu de changement. Le truc, c'est que quand je suis en train de prendre des médicaments, je me sens un peu bien. Il suffit juste que je finisse la cure et le mois qui suit, la douleur revient.
Est-ce que vous avez l'impression, Vanessa, excusez-moi, est-ce que vous avez l'impression d'être accro aux médicaments?
Oui, en fait, j'en suis arrivée là. C'est-à-dire, quand j'en prenais pas, ça, c'était pire. Donc, du coup, j'étais devenue dépendante même à ce temps. J'en avais dans mon sac au cas où je pouvais avoir des douleurs là où je suis. Mmh. Il fallait forcément en prendre. Et quand je prends le matin, à 12h, il faut que je prenne encore parce que sinon, à 13h, la douleur va répondre.
Et ça, c'est toujours le cas aujourd'hui, Vanessa, ou vous avez arrêté?
J'apprends à arrêter, mais de temps en temps, c'est compliqué, surtout lorsque la douleur est exponentielle. C'est-à-dire, à un moment donné où la douleur est insupportable, je suis obligée d'en prendre quand même.
Douleur insupportable, on entend bien la plainte de cette auditrice Vanessa, docteur Kielem. C'est vrai que le cycle menstruel, ces douleurs chez les femmes, c'est une plainte fréquente. C'est très pénible pour elle. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Alors, bonjour déjà à Vanessa. La dysménorrhée, c'est-à-dire les douleurs pendant les règles, c'est quelque chose de cyclique. La femme, elle a les règles chaque mois. Donc, c'est lié, en fait, à des contractions utérines ou à des phénomènes ischémiques utérins qui permettent d'expulser le tissu menstruel. Donc, souvent, ça s'associe à une libération de certains médiateurs chimiques de la douleur. Et que les prostaglandines, et ça fait mal. Il y a d'autres formes aussi qui sont dites secondaires où on peut avoir une infection utérine associée ou quand il y a des myomes utérins, par exemple les fibromes. Tout ça, ça peut générer de la douleur. C'est se dire que chaque mois, soit un peu avant les règles, pendant les règles, on peut avoir mal. Et c'est vraiment essayer de gérer. Moi, je dis gérer parce que ce n'est pas quelque chose qu'on pourra traiter de façon définitive.
Une question, Vanessa, est-ce que vous prenez un contraceptif hormonal?
Non, enfin, je n'en ai jamais pris.
Est-ce que vous en avez parlé à une gynécologue éventuellement pour soulager vos douleurs?
Non,
ou est-ce que c'est quelque chose qui va contre vos principes et vos idées?
Non, en fait, je n'y ai jamais pensé parce que je ne suis pas mariée. Et puis,
Mais il y a des personnes qui prennent ces pilules contraceptives, non pas à des fins de contraception, mais vraiment à des fins de santé gynécologique. Je me tourne vers le docteur Sereni. C'est vrai que pour les douleurs menstruelles, il y a des jeunes filles, même très jeunes, qui peuvent prendre la pilule pour éviter ces douleurs terribles.
Tout à fait. Il y a des médicaments qui peuvent tout à fait modifier le cycle, même de façon provisoires, hein, quelques mois, et qui peuvent couper ce cycle de la douleur. Il y a des douleurs menstruelles qui sont extrêmement importantes. Hein. Il y a des femmes qui disent « j'ai eu plus mal à certaines douleurs, à certaines règles que
qu'à l'accouchement. » Par exemple. Oui, ça c'est quelque chose qu'on entend absolument. En tout cas, je pense qu'on peut vous inciter vraiment, Vanessa, à aller en parler à un gynécologue, parce qu'il peut y avoir des solutions. Encore une fois, bien peser le pour et le contre de tel ou tel produit, essayer de voir ce qui pourra vous soulager au maximum. Je reviens vers vous avec une dernière question, docteur Julie Kielem. C'est sur le facteur économique, évidemment. Payer des médicaments, aller voir un neurologue, c'est pas à la portée de tout le monde. On va dire peut-être encore plus la rééducation. Les séances de kinésithérapie, ça peut être cher pour les personnes qui ont un contexte économique un petit peu compliqué. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ?
Alors déjà, en ce qui concerne les douleurs que nous rencontrons en neurologie, on a tout l'arsenal thérapeutique à notre disposition. Effectivement, c'est le coût. La kinésithérapie aussi a un coût. Donc dans un premier temps, quand la personne a vraiment très mal, nous lui conseillons la kinésithérapie. Et après, au quotidien, on essaie de leur conseiller des mesures d'hygiène, par exemple du dos, en ce qui concerne ceux qui viennent pour des lombalgies ou des cervicalgies qui évoluent de façon chronique.
On vous remercie beaucoup, docteur Julie Kielem, hein, d'avoir été en ligne de Ouagadougou. Il nous reste moins d'une minute, docteur Sérénie, juste sur les centres antidouleurs. Pourquoi c'est important d'aller, quand on peut, dans l'un de ces centres hospitaliers pour justement essayer d'être soulagé ?
Quand il y en a et quand c'est facile d'accès, oui. L'avantage, c'est que vous avez des gens qui ont justement entendu beaucoup d'histoires de douleurs chroniques, qui connaissent ça et qui se consacrent à ça, connaissent les moyens spécifiques de traitement pluridisciplinaire, c'est-à-dire le fait que on prend à la fois des médicaments, de la rééducation, de la psychologie, d'autres techniques éventuellement. On sait que c'est ce qui marche le mieux.
D'attaquer la douleur sur plusieurs fronts. On vous remercie infiniment, docteur Carole Sérénie, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le titre de cet ouvrage. Là, c'est pour les maux de tête. Ouvrage que vous avez signé aux éditions du Cerf, Les maux de la migraine. Espoir, projet prometteur, la recherche dans le cadre de la lutte contre la drépanocytose, cette maladie génétique des globules rouges. On va en parler avec vous, professeur Marina Cavazzana, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes hématologue et chef du service des thérapies innovantes à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Alors il s'agit d'un nouvel essai de thérapie génique dans le cadre des derniers travaux publiés par l'INSERM. Il est question de double thérapie génique contre la drépanocytose. Alors ça mérite bien sûr des explications. Pourquoi double thérapie ?
Vous faites référence à des travaux pour l'instant exclusivement des recherches précliniques où nous avons essayé d'encore améliorer ces vecteurs qui amènent cette information avec une double cassette d'expression qui permettrait d'une part de faire produire une hémoglobine correcte et d'autre part d'éteindre l'expression de l'hémoglobine drépanocytaire. On essaye de corriger les globules rouges de façon qu'ils produisent une hémoglobine saine.
Quand on lit ces recherches, il est question de bêta-globine et de gamma-globine. De quoi s'agit-il ? Pour parler simplement à des auditeurs et des auditrices, même moi-même qui n'y connais pas grand-chose, qu'est-ce que ça signifie ?
Ça signifie que tout être humain produit pendant la grossesse exclusivement une hémoglobine qui s'appelle hémoglobine fœtale, qui a une affinité pour l'oxygène supérieure à la bêta-globine. Cette hémoglobine fœtale est formée d'une protéine qui s'appelle gamma et de la chaîne alpha. Quand on naît, on change la production de cette hémoglobine fœtale avec une production de ce qu'on appelle une hémoglobine adulte. Et dans ce cas, c'est la bêta-globine qui rentre au travail et par contre la gamma-globine est éteinte. Vous entendez parler de ces deux globines parce qu'en réalité, un espoir récent pour les malades atteints de cette pathologie, c'est de faire réexprimer l'hémoglobine fœtale pour favoriser l'expression de cette hémoglobine qui est très utile, tout en diminuant l'expression de l'hémoglobine S.
Parce que c'est vrai, dans les 6 premiers mois de vie des bébés, ils n'ont pas les symptômes, quand ils sont drépanocytaires, ils n'ont pas les symptômes ouverts de la maladie, on va dire. Ils ne souffrent pas encore de la maladie, ils sont protégés par le sang fœtal.
Oui, c'est ça. Les chercheurs ont trouvé que c'était une autre façon de pouvoir guérir cette maladie.
Aujourd'hui, on parle de recherche. Qu'en est-il pour les personnes qui ont la drépanocytose et qui nous écoutent et qui se demandent quand est-ce que tout cela pourrait aboutir?
Il est vrai que quand on se positionne du côté des malades, nos recherches semblent hyper lentes. Les protocoles sont très longs, mais on a des progrès évidents qui ont été faits et qui ont le mérite d'exister et de nous permettre encore d'améliorer ces résultats.
On agit sur le génome, on agit sur la génétique. Pour bien expliquer aux auditeurs les avantages de ce type de thérapie, si les essais sont concluants, hein, bien sûr, il va falloir le confirmer, c'est quoi l'avantage par rapport aux prises en charge actuelles, par rapport aux médicaments et aux traitements actuels?
La thérapie génique se positionne plutôt comme une thérapie définitive. Les traitements conventionnels, à type échange de globules rouges ou médicaments antidouleurs, sont des thérapeutiques ponctuelles qui ne résolvent pas le problème définitivement. La seule façon de résoudre les problèmes, c'est faire recours à une greffe à partir d'un donneur compatible familial. La thérapie génique vient après. La thérapie génique, c'est une méthode qui consiste à modifier les cellules souches du malade et proposer ce type spécial de greffe chaque fois que les patients n'ont pas un donneur compatible. Il faut savoir que la greffe des cellules souches est un traitement curatif qui a donné déjà beaucoup de succès. Nous, on essaye de reproduire ces résultats avec la thérapie génique, mais pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. C'est pour ça que la recherche clinique reste très lente.
Et c'est bien un espoir, et on l'a bien souligné. Merci infiniment, professeur Marina Cavazzana. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et on remercie toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise cette émission, votre émission, hein, c'est Toum Samaké, Ophélie Lassène, Didier Bleu et Didier Chérouse. Demain dans Priorité Santé, on va parler du rôle de la parole dans le soin, dans les prises en charge thérapeutiques. Comment la parole peut-elle aider à guérir, à aller mieux? On en parle demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Sunwa Assurance, qui assure les études de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.